Donc, je remercie les organisateurs et les organisatrices de me permettre de donner un aperçu d'une enquête de terrain. Donc, le 29 mai 2012, le Monde titre « Menace sur l'islam noir, le fondamentalisme avance au sud du Sahara, révélant la persistance du pouvoir symbolique de l'expression islam noir ». Cette communication vise à explorer la manière dont le mouvement de réforme par la ruqya du Cher Ben Halima Abdul Raouf constitue une remise en cause de la notion d'islam noir telle que les administrateurs coloniaux l'ont définie au début du XXe siècle. Et les analyses reposent essentiellement sur une observation participante réalisée entre 2015 et 2018 dans différents espaces faisant partie du réseau créé par Ben Halima, et plus précisément les centres de Ruqya de Gennevilliers de Tunis. À cela s'ajoute une analyse d'une trentaine de vidéos de conférences de pratiques de captage et de Ruqya que Ben Halima diffuse abondamment dans les réseaux sociaux. Donc, après avoir parcouru les circonstances de l'émergence de la notion d'islam noir, ainsi que certaines de ses appropriations contemporaines, nous aborderons le relatif succès de Ben Halima Abdul Raouf en Afrique de l'Ouest, et nous finirons par aborder la manière dont son mouvement remet en cause la notion d'islam noir dans sa version coloniale. Donc, en 1910, Alain Quelien, administrateur colonial ethnologue en AOF, en Afrique occidentale française, déclare « L'islam soudanien a l'avantage de tendre à perdre son caractère fanatique à mesure que la couleur du noir augmente. Ce caractère subsiste seulement chez les races noires métissées d'arabes ou de peuls. Cet islamisme informe et hétérodoxe ne pourrait donc être dangereux à condition qu'il reste livré à lui-même et qu'aucune influence extérieure ne vienne lui faire subir d'importantes modifications. » Donc là, Alain Quelien pose les prémices d'une définition de l'islam noir qui est donc non subversif, hétérodoxe, informe, une sorte de vagabondage islamique. Selon Paul Marty, chef des affaires musulmanes en AOF de 1913 à 1922. Donc bref, l'islam noir, du point de vue colonial, c'est une forme détériorée du vrai islam qui se trouverait auprès des Arabes. Et en cela, il s'inscrit dans une dynamique de racialisation, donc d'assignation à des stéréotypes dégradants et infériorisants en raison d'un phénotype, des Africains subsahariens et plus généralement des Noirs, puisque l'islam noir est conçu sous l'angle des dites religions africaines qui sont observées avec grande condescendance par les administrateurs coloniaux et notamment sous l'angle de la superstition, du fétichisme. Et donc l'islam noir ne saurait être une version améliorée de l'islam, plus fidèle aux préceptes de la religion musulmane. Et cette dynamique de racialisation fait écho à celle en vigueur à l'égard des Noirs dans les sociétés à majorité arabo-musulmane et qui remonte à loin et qui est rattachée notamment à la traite transsaharienne. Donc l'islam noir est l'expression de la domination coloniale française en Afrique de l'Ouest. Elle correspond aussi à une stratégie de division et de différenciation, à une stratégie de contrôle des dynamiques musulmanes ouest-africaines, puisque à l'époque, à la fin du 19e siècle, les confréries islamiques algériennes développent une résistance face à l'expansion coloniale française. Et donc il s'agit du point de vue de la France d'éviter une influence du nord vers le sud. Et donc l'islam noir, dans sa définition, accommode les forces colonisatrices puisqu'elle est conçue docile, non fanatique, non dangereuse, mais en fait elle est créée comme telle puisque une élite musulmane soutenant le projet colonial est mise en avant afin de neutraliser toutes les forces contestatrices. En parallèle actuellement, il existe une réappropriation récente de l'islam noir par certaines figures intellectuelles subsahariennes après un travail de redéfinition. le politiste Bakary Samb, qui est intervenu ce matin, enseignant chercheur à l'université Gaston Berger et directeur du Timbuktu Institute, affirme l'existence d'une spécificité négro-africaine musulmane sans volonté de cloisonnement. Selon lui, le penchant très prononcé pour la chose mystique au sud du Sahara, ainsi que l'esprit de groupe, expliquerait l'aspect avant tout confrérique, pacifique et soufi de l'islam. Et il est vrai que Ben Halima Abdourraouf remporte un succès en Afrique de l'Ouest, notamment du fait de l'attrait pour la chose mystique qui existe. Donc Ben Halima Abdourraouf a un parcours à la croisée des chemins, puisqu'il est né en Tunisie d'un père tunisien juriste de profession et d'une mère anglo-américaine. Il a étudié dans des établissements de prestige en France pour devenir économiste statisticien. Et il a été membre d'Etabir, donc un mouvement islamique transnational de prédication qui est né en Inde dans les années 1920. Et depuis 1997, il est un raqi professionnel, donc un praticien de la ruqya, qui est le traitement des mots occultes à l'aide du Coran et en s'inspirant de la sunna, la tradition prophétique. Et il opère à l'échelon international. Il est venu à la ruqya pour des raisons personnelles lorsque son épouse a été frappée selon lui par un djinn, donc ce sont les êtres créés de feu selon la tradition musulmane, lors d'un voyage spirituel en Inde, ce qui l'a amené à vouloir chercher les moyens de la soigner. Et de fil en aiguille, il a commencé à devenir une référence pour traiter ce type de maux en région parisienne, ce qui l'a amené à réaménager son mode de vie en cessant ses activités d'économiste. Donc cet engagement public en faveur de la ruqya à l'échelon international est vraiment atypique, puisqu'on vit à l'ère de la modernité où est mis en avant un type de rationalité qui déprécie la croyance en l'existence d'un monde occulte influant sur la réalité humaine. Et ainsi, rares sont les leaders musulmans à se situer dans ce domaine. Le cheikh Ben Halima Abdourraouf destine avant tout son mouvement de réforme aux musulmans, tout en ouvrant ses portes à tout à chacun, puisqu'il le répète à l'envi, la sorcellerie est interdite en islam, fait sortir de l'islam, selon l'avis unanime des savants musulmans, selon lui, et elle serait répandue parmi les musulmans, ce qui provoquerait une multitude de problèmes de santé publique, politique et socio-économique, selon lui. Donc, son objectif n'est pas tant de réformer les structures sociales, mais les mentalités, à travers la diffusion de son message, donc à travers les réseaux sociaux, la radio, la télévision, ses livres. Et donc, sa stratégie est d'opérer par le bas et non pas par le haut. Donc, se pose la question de sa définition de la sorcellerie. Ben Halima déclare avoir lu tous les livres à ce sujet qui seraient essentiellement en arabe, et donc sa définition est que la sorcellerie, c'est invoquer un autre que Dieu ou s'adonner à un rituel qu'il qualifie de satanique pour nuire ou obtenir des avantages concernant la vie affective, professionnelle ou politique, et qui impliquerait de conclure un pacte avec Shaitan, avec Satan, et le concours de djinn pour réaliser l'objectif recherché. Donc, de son point de vue, les talismans font partie de la sorcellerie, sauf ceux qui ne comportent que du Coran. Son point de vue est dichotomique sur la question, puisque soit on se tourne vers Dieu pour demander de l'aide mystique, ou soit on se tourne vers un autre que lui, qui n'est d'autre que Shaitan. L'écho du cher Ben Halima en Afrique de l'Ouest et parmi les communautés d'ascendance subsaharienne en France est relativement conséquent. puisque notamment il passe beaucoup de temps à animer des campagnes de Ruqya en Afrique de l'Ouest, et quand il vient en fait faire une campagne en Europe et notamment à Paris, en région parisienne, il attire beaucoup de monde. Donc, par exemple, cette année, en 2018, sur 9 pays visités, 6 se situent au sud du Sahara, et il reçoit de nombreuses invitations de la part d'organisations musulmanes subsahariennes, de sorte qu'il a une liste d'attente de plus d'un an. Il y a de nombreux facteurs en fait expliquant ce succès. Notamment le fait qu'il prend au sérieux le monde du raïb, le monde invisible. Le fait que son enseignement est ouvert à tous et ne constitue pas une initiation secrète réservée à un petit nombre. Et surtout, il y a aussi le rôle du captage dans ce succès, qui est une technique que Ben Halima Abdourraouf a développée au fur et à mesure de sa pratique de la ruqya, et qui consiste à capturer des djinns qui seraient impliqués dans un travail sorcellaire à travers un capteur, donc un médium censé détenir des brèches avec le monde des djinns à l'aide d'invocations et la récitation de versets spécifiques du Coran. Il y a un aspect spectaculaire du captage qui fait que ça suscite beaucoup d'engouement, puisqu'il rend visible une réalité, il rendrait visible une réalité invisible, les djinns. Et donc l'engouement est assez grand en Afrique de l'Ouest et au-delà. La ruqya de Ben Halima Abdourraouf constitue une remise en cause de l'islam noir dans sa version coloniale, car il considère que l'impureté de la sorcellerie et des sciences talismaniques ne concerne pas que l'Afrique subsaharienne. En cela, il brise l'idée d'une spécificité religieuse noire et de vagabondage islamique noir. L'authenticité ne se trouve pas, de son point de vue, au Maghreb ou au Mashrek. Il a effectué des captages en France, au Temple de Mercure et au Royaume-Uni, à proximité de cimetières. Et par ailleurs, son approche transnationale du problème qu'il érige brise encore cette idée de spécificité religieuse noire, puisque son mouvement de réforme par la ruqya est destiné à tous, et de sorte qu'il effectue une mise en équivalence culturelle du fait sorcellaire. Il remet autant en cause les Kteb en Afrique du Nord que les Gris-Gris en Afrique de l'Ouest, ou les Tarouis dans l'océan Indien, les porte-bonheurs, les carrés magiques. Sur sa page Facebook, il est loisible de lire des invitations, des commentaires, voire des appels au secours en provenance des quatre coins du monde. Et son site web officiel est rédigé en français et en anglais. Il a l'ambition d'effectuer une traduction en espagnol et en arabe. Pour conclure, la ruqya du Cheikh Ben Halima constitue donc une remise en cause de l'islam noir dans sa version coloniale, puisqu'il brise l'idée d'une spécificité religieuse noire et l'idée de dichotomie et de différenciation infériorisante. Il anime un mouvement de réforme quiétiste et conservateur fondé sur l'invitation de la réforme de soi, qui est une approche très individualisante et qui n'amène pas forcément à avoir une attitude de contestation face à des structures inégalitaires liées notamment à la race, à la question socio-économique ou de genre, comme le propose la théologie de la libération en Afrique du Sud avec Farid Essak. Voilà.
Merci beaucoup, chers collègues. Le record de Strasbourg a été battu. On a gagné une minute.
Merci.
Merci pour cette minute. On va laisser la parole. Vous voulez montrer quelque chose, c'est ça?
Non, c'était juste, mais j'ai pas eu le temps d'aborder la question. C'était l'affiche de la dernière campagne du cher Ben Halima en Côte d'Ivoire, donc oui. Du 27 novembre au 2 janvier, qui montre un petit peu tout ce qu'il traite. Et, enfin, mais j'ai pas pu développer cette question-là. Bon.